Si nous respectons le temps, je crois que nous devons passer à la communication suivante. Et je crois que nous avons une petite surprise, puisque je vois dans le fond de l'amphi Martin Rueff, alors qu'il était annoncé par Zoom. Et c'est un beau cadeau d'avoir quelqu'un de présent qui a réussi à franchir une frontière, j'espère légalement, pour nous rejoindre de manière physique. Alors, Martin est là, donc professeur à l'Université de Genève, et Martin va nous parler de Rousseau. Donc, Martin va nous parler de Rousseau. Y a-t-il un style tardif en philosophie, les rêveries du promeneur solitaire ? Et je lui donne la parole en le remerciant de sa visite impromptue.
Bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup à Antoine Compagnon et Elisabeth Rousseau d'avoir organisé cette journée. On va passer d'un portrait de groupe à un portrait centré sur une figure. Donc, y a-t-il un style tardif en philosophie ? Les rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau. Peu enclin aux aléas de la biographie, le sinistre résumé de l'existence d'Aristote par Heidegger vaudrait ici comme malédiction. Aristote est né, il a vécu, il est mort, indique Heidegger dans le cours sur les concepts fondamentaux de la métaphysique, et bien plus attaché à la production du vrai sub specie aeternitatis, auquel accéderait un jeu transcendantal, comme coupé de toute détermination empirique, les historiens de la philosophie semblent avoir emboîté le pas à Kant, qui soutenait dans des commentaires aux dernières pages de la méthodologie transcendantale de la première critique, je cite, « qu'une histoire philosophique de la philosophie n'est pas elle-même historique ou empirique, elle est rationnelle, c'est-à-dire possible a priori. Car bien qu'elle présente des faits de la raison, elle n'emprunte pas ceci au récit d'une histoire, elle les tire de la nature humaine de la raison, de la nature de la raison humaine, pardon, en tant qu'archéologie philosophique. » Je fais remarquer d'ailleurs que c'est là que Foucault dit avoir pris le terme d'archéologie. C'est sans doute pour avoir négligé cette histoire que les philosophes se sont rendus si peu attentifs au paradoxe suivant. Tandis qu'une certaine tradition inspirée des lieux communs du stoïcisme associe la philosophie à la maturité, sinon au grand âge, la perte progressive des facultés qui accompagnent celui-ci menace proportionnellement celle-là. S'interroger sur un style tardif en philosophie, c'est sans doute, au fil d'enquêtes circonstanciées de ses récits de vie, considérer des images de la pensée, le grand âge orienterait vers la sagesse, dit-on, et éloignerait de la pure spéculation. Et ce constat semble en effet convenir pour des penseurs qui voient la philosophie comme un apprentissage de la mort et se réjouissent, selon les formules du Phédon, que l'étau corporel se desserre pour libérer, je cite, « l'âme des barreaux de sa prison ». Mais ce serait aussi considérer des régimes d'écriture différents, car le grand âge des philosophes est moins propice aux grandes envolées ou à de nouvelles embardées, ou même aux éclairs de génie, comme ceux qu'Adorno décèle dans les derniers quatuors de Beethoven, ce que Saïd étudie, ou ce qu'Agamben repère, par exemple, dans l'Annonciation de San Salvador du Tiziano. Non, cet âge est plus propice aux précisions, aux repentirs, aux réécritures, aux extensions du système, où l'on perçoit, plus ou moins admirable, le tremblement du temps. Le Platon des lois, par exemple, est bien plus raide que celui des dialogues. Descartes semble tirer les sommes de son système dans le traité des passions de l'âme, et Hegel ne cesse de peaufiner la première, puis la seconde, puis la troisième édition de son encyclopédie des sciences philosophiques. Commencé à l'automne 1776, alors que Rousseau, âgé de 64 ans, a échoué à transmettre la copie des dialogues Rousseau juge de Jean-Jacques, sa dernière et impressionnante entreprise de défense personnelle, et laissé inachevé le 12 avril 1778, on en fête donc à quelques jours près l'anniversaire, 4 mois avant sa mort, les rêveries du promeneur solitaire ne renferme pas seulement la dernière philosophie de Rousseau, elle libère aussi, pour ainsi dire, son style tardif, d'une main légèrement tremblante, mais vous allez le voir, parfaitement assurée. Je partirai d'un regret de Bernardin de Saint-Pierre. Il écrit dans « La vie et l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau » Il avait voulu, Rousseau, faire un traité sur les avantages de l'adversité et un autre sur ceux de la vieillesse. Il était mécontent, disait-il, de celui de Cicéron, et quel service eût-il rendu au genre humain ? Il a rendu l'enfance à la vie humaine, que ne lui a-t-il rendu la vieillesse ? Je ne sais là-dessus aucune de ses idées, mais en comparant combien nos vieillards sont tristes, de mauvaise humeur, alors que lui était content, tranquille, heureux, ah, c'était à lui de traiter de si beaux sujets. Son expérience, son éloquence, ses vertus, s'il n'a pas écrit sur ces deux sujets, la manière dont il les a supportés vaut mieux qu'un traité. Il n'est pas sûr que les rêveries du promeneur soient le traité qu'attendait Bernardin. Je soutiendrai plutôt qu'elle démente l'idée qu'il s'en faisait. Considérons un instant la lettre du texte de Bernardin. Il évoque un vœu prêté à Rousseau, celui de faire un traité sur l'adversité et un autre sur la vieillesse, et il offre à ce sujet un éclairage plus précis, moins oiseux. Le traité sur la vieillesse serait né d'un mécontentement provoqué par le De Senectute de Cicéron. Bernardin n'évoque pas les raisons de ce mécontentement et il avoue au reste, prudence assez salutaire, ne rien savoir des idées de Rousseau. C'est vrai. Mais il soutient une double thèse. La première, c'est que Rousseau aurait rendu l'enfance à la vie humaine, ce qui permet d'évoquer l'Émile, et qu'il avait tous les moyens de rendre la vieillesse à la vie humaine. Il avait pour lui l'expérience, l'éloquence et la vertu. S'il est vrai que l'Émile invente d'une certaine manière l'enfance, et noue la théorie de l'homme de Rousseau à une philosophie des âges, dans le cadre d'une anthropologie narrative, Rousseau, vous en souvenez peut-être, abandonne Émile au moment où il devient père et ne dit rien de sa maturité ni de sa vieillesse. Il manque sans doute un livre 6 à l'Émile. La deuxième thèse de Bernardin, c'est que Rousseau, s'il n'a pas écrit ce traité, l'a composé en le mettant en œuvre dans sa vie même, dans la manière dont il a supporté et l'adversité et la vieillesse, la forme de vie, l'exercice de soi, le soin de soi, eût dit le dernier Foucault, appuyé sur les travaux de Hadot, aurait tenu lieu de traiter. Mais à dire de vrai, à la lecture des rêveries, la question de l'endurance se pose en des termes bien différents et tels que Rousseau décide plutôt de tourner le dos au genre humain plutôt que de le réformer. Il s'agit de renoncer. C'est à ce renoncement que je vais d'abord m'intéresser en posant une question qu'inspire le texte de Bernardin. Est-il fait mention du De Senectute de Cicéron dans les rêveries du promeneur solitaire ? La réponse, vous allez voir, est assez évidente. La troisième promenade s'ouvre en effet sur l'évocation d'une formule de Solon, dont peut-être Antoine Compagnon a fait état ici, « Je deviens vieux en apprenant toujours ». Formule de Solon qui a traversé les siècles. Sur le manuscrit des rêveries, la citation est détachée à la manière d'une épigraphe, et la troisième promenade, la plus mal aimée des critiques, je dois dire, se présente comme une discussion frontale de cette formule. Et elle s'ouvre par ces lignes. Solon répétait souvent ce vers dans sa vieillesse, il a un sens dans lequel je pourrais le dire dans la mienne, mais c'est d'une bien triste science que celle que depuis 20 ans, l'expérience m'a fait acquérir, l'ignorance est encore préférable. D'ailleurs, avant qu'on ait obtenu tout cet acquis par des leçons si tardives, l'à-propos d'en user se passe. La jeunesse est le temps d'étudier la sagesse, la vieillesse est le temps de la pratiquer. L'expérience instruit toujours, je l'avoue, mais elle ne profite que pour l'espace qu'on a devant soi. Est-il donc, au moment qu'il faut mourir, d'apprendre comment on aurait dû vivre ? Et que me servent des lumières si tard et si douloureusement acquises sur ma destinée et sur les passions d'autrui dont elle est l'œuvre. La troisième question va poser la question de l'adaptation de l'étude au grand âge. Nous entrons en lice à notre naissance, nous en sortons à la mort. Que sert d'apprendre à mieux conduire son char quand on est au bout de la carrière ? Rousseau offre alors une admirable autobiographie philosophique qui entend répondre à la question socratique qu'il avait laissée en suspens dans le second discours, « Que suis-je moi-même ?» Et il insiste tout au long de cette promenade sur ce qui le sépare de ceux qui ont capturé le nom de philosophe en point d'en faire un nom propre, les philosophes des Lumières. Leur philosophie leur était étrangère, commente-t-il, alors que pour moi, et il anticipe ici la reprise kantienne du motif d'Horace, quand j'ai désiré apprendre, c'était pour savoir moi-même. Savoir moi-même. Il revient, pour évoquer cet impératif, au portrait du jeune homme en pleine formation, l'enfance à Genève, la rencontre de maman, et il nous renseigne avec une grande précision sur les conditions de sa réforme à l'âge de 40 ans, ce qui rentre en résonance avec ce que disait brillamment Jean-Pierre Martin. Une des caractéristiques de Rousseau, vous le savez, c'est que c'est un écrivain très tardif. Il commence à 40, et toute son œuvre, il l'écrit entre 40 et 50. Après, comme il le dit, il a passé sa vie à se justifier. Cette réforme, il la présente comme Julie présentera la sienne dans le roman « Julie ou la nouvelle héroïse », comme une véritable révolution. C'est le moment de l'examen sévère, des décisions, des résolutions pour la vie, que ses amis, ces philosophes modernes qui ne ressemblaient guère aux anciens, ardents missionnaires d'athéisme et très impérieux dogmatiques, ont mis à rude épreuve. Mais, à la manière d'un philosophe de l'Antiquité, il a tenu bon. C'est ainsi que, raisonnant avec moi-même, je parvins à ne jamais me laisser ébranler dans mes principes par des arguments captieux. Je ne veux pas rentrer ici dans le détail de son récit, mais je me concentre sur sa clausule en soulignant que le caractère organique de cette troisième promenade a échappé au commentateur. Voilà ce qu'il dit. « Ainsi retenu dans l'étroite sphère de mes anciennes connaissances, je n'ai pas, comme Solon, le bonheur de pouvoir m'instruire chaque jour en vieillissant. » La troisième promenade donc n'est pas rédigée pour confirmer Solon, mais pour le démentir, il est faux de soutenir qu'en vieillissant, on apprend toujours. Il est faux de prétendre que la vieillesse permette de répondre à la question des questions, que suis-je moi-même ? Cette question qui avait été posée dans la première promenade et qui relançait la question du second discours trouve dans les rêveries non pas une réponse définitive, mais un constat d'échec, un point de butée. Pour mettre à profit les leçons du bon plus tard, je résolus d'employer à m'examiner sur le mensonge la promenade du lendemain et j'y viens bientôt confirmer, dans l'opinion déjà prise, que le « connais-toi toi-même » du temple de Delphes n'est pas une maxime si facile à suivre que je l'avais cru dans les confessions. Or, cette thèse, la thèse de Solon, selon laquelle, en vieillissant, on apprend toujours, est le leitmotiv du De Senectute de Cicéron. Réfuter Solon, c'est tout simplement rejeter Cicéron. Je cite deux passages du De Senectute. Vous voyez donc que la vieillesse n'est point languissante et imbécile, mais qu'elle est languida atque inerse, mais qu'elle est ouvrière, operosa, agissant et entreprenant toujours. Ce qu'on a fait à la fleur de la vie, on le fait aussi dans son vieillage. Et mieux encore, le vieillard ne s'instruit-il pas ? Demande Cicéron. Nous voyons Solon se vanter dans ses vers de vieillir en apprenant tous les jours quelque chose. Ainsi ai-je fait, moi qui, tout dernièrement, ai appris les lettres grecques. Puis après, il se vante d'avoir appris à jouer de la lyre. Et il y revient plus loin. Rappelez-vous ce beau vers de Solon, que je vous citais il n'y a qu'un instant, et où il nous dit qu'en vieillissant, il s'est instruit tous les jours. Pour moi, je ne vois rien au-dessus des plaisirs de l'esprit. Bernardin a raison. Rousseau voulait réfuter Cicéron en raillant la prétention des vieillards à philosopher. Mais il n'est pas le premier à critiquer Solon, et cette critique, en fait, est indirecte, et une référence décisive semble ici importante à rappeler. Car le premier à critiquer la formule de Solon, c'est un auteur qui est très présent dans les rêveries et qui n'est autre que Platon. Platon, en effet, dans La République, à travers le portrait de Céphale, critique les vers de Solon. Quoi qu'il en soit, je le cite, « N'oublions pas que notre premier choix tombé sur des vieillards, et qu'ici un pareil choix ne serait pas de saison, car il ne faut pas croire Solon lorsqu'il dit qu'un homme qui vieillit peut apprendre beaucoup de choses. Il serait plutôt en état de courir. Non, c'est à la jeunesse que tous les grands travaux appartiennent. Il n'est pas question ici de revenir sur la soi-disant gérontophobie de Platon. Platon souligne à maintes reprises dans la République qu'à l'exception du sage, du philosophe et du gardien de la cité, la vieillesse est plutôt synonyme de corruption morale, qu'elle favorise l'accentuation des vices et encourage le lâcher-prise. Il dénonce en effet à maintes reprises ses faiblesses et parmi ces dernières, le jeunisme, le portrait de Céphale montre que la vieillesse peut rendre, je le cite, deux fois enfant et raviver toutes sortes d'angoisses. On retrouve d'ailleurs, ce filon est important dans la tradition, dans la rhétorique d'Aristote, en 2.14, des analyses analogues. Les spécialistes de l'Antiquité ont étudié les conceptions contrastées de la vieillesse chez Platon, Aristote et les stoïciens. Or, on sait que Rousseau a lu Platon de près. Il possédait l'édition des œuvres de Platon dans la traduction de Marcille Ficin, revue et corrigée par le théologien humaniste Simon Grineus, et publiée à Lyon chez Jean de Tournes. On le sait, on ne sait pas très bien comment il est entré en possession de ces volumes, mais on sait qu'il les a revendus avec la totalité de sa bibliothèque en mars 1767. Et ils se trouvent aujourd'hui, on peut les consulter, à la British Library. Ils attendent qu'une étude systématique les sorte de la torpeur des rayonnages. Mais en tout cas, une chose est sûre, que Rousseau pense à Platon en réfutant Solon pour rejeter Cicéron, on en trouve une preuve textuelle dans la troisième promenade. Rousseau évoque, en effet, comme Platon au livre 7 de la République, la métaphore du char et de la lice, de la compétition sportive et de l'épuisement des facultés. En un mot, la philosophie exige trop de force et de maturité pour être confiée aux vieillards. Si la philosophie implique la puissance des facultés et si la vieillesse implique l'épuisement des facultés, deux possibilités sont offertes à notre réflexion, ou bien plus de philosophie du tout, et il n'y a pas de dernier style en philosophie, ou bien une philosophie de l'impuissance et de l'épuisement. Et c'est cette deuxième voie que je voudrais emprunter avec vous ce matin. En effet, les rêveries proposent en continu une réflexion sur l'impuissance, sur, plus exactement, la puissance de celui qui ne peut plus rien. On se souvient que dans le cadre de sa philosophie, de son anthropologie, Rousseau a proposé une très importante réflexion sur le rapport de la force et de la volonté. C'est au livre 2 de l'Émile. Quand on dit que l'homme est faible, que veut-on dire ? Ce mot de faiblesse, dit-il, indique un rapport de l'être auquel on l'applique. Celui dont la force passe les besoins, fût-il un insecte, un ver, est un être fort. Celui dont les besoins passent la force, fût-il un éléphant, un lion, fût-il un conquérant, un héros, fût-il un dieu, c'est un être faible. L'homme est très fort quand il se contente d'être ce qu'il est. Il est très faible quand il veut s'élever au-dessus de l'humanité. Le fort, alors bien sûr, certains commentateurs pensent qu'il y a du Pascal derrière, le fort est celui qui peut plus qu'il ne veut, le faible, celui qui ne veut plus, qui veut plus qu'il ne peut. La sagesse consiste donc à équilibrer, vouloir faire et pouvoir faire. Rousseau conclut, c'est le secret de la puissance. Une telle ontologie de la puissance a des conséquences morales et politiques. Elle est pensée dans l'Émile, dans le cadre de la liberté de l'enfant, puis de l'adolescent, et enfin de l'homme jeune. Il sera libre et puissant tant qu'il pourra proportionner son vouloir à son pouvoir. Il est faible dès qu'il veut plus qu'il ne peut, fort dès qu'il veut ce qu'il peut. Et Rousseau invite les parents à encourager les enfants à ne pas vouloir plus que ce qu'ils peuvent, à ne pas leur laisser prétendre qu'eux-mêmes vont relayer des désirs excessifs de puissance. Or, ce que je crois, c'est que Rousseau a appliqué cette question au grand âge. Pour le prouver de manière technique et dans le détail, il faudrait rappeler que cette question nous conduit directement au cœur du problème de la puissance, de la dynamis, puisque quand nous disons de quelqu'un qu'il a toutes ses facultés, qu'il a celle de voir ou d'entendre, quand nous disons que quelque chose dépasse nos facultés, nous nous référons toujours et immédiatement à la sphère de la puissance. Les facultés, intellectives ou volitives, c'est ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire. La faculté, d'Aristote à Rousseau, désigne la modalité par laquelle une activité est comme séparée d'elle-même et se trouve attribuée à un sujet. Alors, chez Aristote, la question a été largement étudiée, la manière dont Aristote imagine la grandeur de la puissance humaine, qui est celle, vous le savez sans doute, cette pensée a été réactivée et par Agamben et par Gwenaël Aubry, la puissance de l'homme, dit Aristote, c'est de pouvoir ne pas pouvoir, de pouvoir ne pas exercer son pouvoir jusqu'au bout, car si la puissance n'était que la puissance d'agir et de faire, si elle n'existait, c'est Aristote qui parle, que dans l'acte qui la réalise, c'est cette puissance qu'Aristote appelle naturelle et dont il dit les animaux capables, alors nous ne pourrions jamais faire l'expérience, par exemple, de l'obscurité, puisque l'obscurité, c'est pouvoir ne pas voir, caresser, c'est pouvoir ne pas saisir. Donc nous sommes des animaux qui pouvons faire l'expérience de notre propre impouvoir. Et certains commentateurs d'Aristote présentent l'homme comme un maître de la privation. Or, dans les rêveries, et cette situation, je vous prie de me croire, n'a rien à voir avec celle des confessions ou des dialogues, les possibles, tous les possibles, sont épuisés. On est donc en droit de se demander si les rêveries ne déploient pas cette ontologie de l'impuissance qui était comme appelée par l'Émile. Comme la fatigue qui nous donne un avant-goût de la vieillesse est non pas la puissance de ne pas pouvoir, de manière générique, c'est celle de ne plus pouvoir. On peut donc se demander, dans les termes de Rousseau, ce qu'il reste de la puissance de pouvoir au moment de l'impuissance et de l'épuisement, car, et je le dis en souriant à Bruno, l'épuisé, on le sait mieux depuis Beckett et Deleuze, ce n'est pas seulement le fatigué, parce que le fatigué, lui, il ne dispose plus d'aucune possibilité, alors que l'épuisé, je suis Deleuze, a épuisé tout le possible. Pour être fatigué, écrit Condillac dans son magnifique dictionnaire des synonymes, il faut agir, ce qui distingue la fatigue de la lassitude, qui n'aurait aucune cause particulière. L'épuisement n'est pas du même ordre que la fatigue et que la lassitude, il ne relève pas de la même ontologie. L'ontologie de l'épuisement n'est pas liée au réel, mais au possible. Or, dans les rêveries, Rousseau écrit, c'est Céline qui pite, « Tout est fini pour moi sur la terre. On ne peut plus m'y faire ni bien ni mal. Il ne me reste plus rien à espérer ni à craindre en ce monde. Et m'y voilà tranquille au fond de l'abîme, pauvre, mortel, infortuné, mais impassible comme Dieu même. » Quelle est la liberté de celui qui ne veut ni ne peut rien faire? Que lui reste-t-il si on ne peut plus rien lui faire? Quelle est la liberté de l'impuissant? Les rêveries proposent, de manière, je crois, assez systématique, une admirable méditation continue, filée, sur l'impuissance. On pourrait le montrer à propos de chacune d'entre elles, je vais juste évoquer ces points, mais je me concentrerai, vous allez voir, sur une rêverie que vous connaissez toutes et tous très bien. Reprenons vite la première. Rousseau y décrit l'impuissance de la toute-puissance et la puissance de son impuissance. C'est lui qui le dit. « J'ai trouvé dans cette résignation le dédommagement de tous mes maux par la tranquillité qu'elle me procure et qui ne pouvait s'allier avec le travail continuel d'une résistance aussi pénible qu'infructueuse. » L'acharnement des puissants comploteurs est une impuissance. Ils ont, dit Rousseau, épuisé toutes leurs ressources en ne me laissant rien. Ils se sont tout ôtés à eux-mêmes. La résignation, c'est une thèse que certains philosophes contemporains de la résilience pourraient reprendre à leur compte, la résignation est une puissance plus grande que la résistance. L'abstinence ou l'abstention est la plus grande des puissances. Ne pouvant plus rien faire, aucun bien qui ne tourne à mal, ne pouvant plus agir sans nuire à autrui ou à moi-même, m'abstenir est devenu mon unique devoir, et je le remplis autant qu'il est en moi. Mais dans ce désœuvrement du corps, c'est un emploi de désœuvrement qui est très singulier au XVIIIe siècle, mais dans ce désœuvrement du corps, mon âme est encore active, elle produit encore des sentiments, des pensées, et sa vie interne et morale semble encore s'être accrue par la mort de tout intérêt terrestre et temporel. Désœuvrement du corps. Le corps ne peut plus se donner à son ouvrage, qui n'est pas seulement d'exister, mais bien de vivre, selon les mots de Rousseau. Quant à la forme politique de ce désœuvrement, ou de la forme morale, vous l'avez entendu, c'est l'abstention. S'abstenir, c'est user pleinement de la puissance de l'impuissance. S'abstenir, ce n'est pas seulement ne rien faire, c'est décider d'une puissance particulière. La deuxième promenade, mais j'ai dit que je m'y consacrerai plus particulièrement, donc je ne fais que l'évoquer pour vous montrer la cohérence du propos de Rousseau, développe elle aussi, à travers des pages bien connues, une méditation sur la puissance de l'impuissance. C'est la promenade de l'accident de Ménilmontant, et on atteint ici, vous le verrez dans un instant, un sommet de la réflexion. Que peut un corps, quand il est impuissant, à se sentir sien ? Rousseau répondra, il est capable de se sentir vaporisé, concentration et vaporisation, disait Baudelaire, tout est là, se sentir vaporisé dans le tout de l'existence. Or, la puissance du soi, d'être soi, est un obstacle évident à ce genre d'expérience. La troisième promenade évoque en termes de renoncement à la puissance le moment de la réforme, moment considérable, une grande révolution qui venait de se faire en moi, un autre monde moral qui se dévoilait à mes regards, les insensés jugements des hommes dont, sans prévoir encore combien j'en serais la victime, je commençais à sentir l'absurdité, etc., etc. J'entrepris à ce moment-là cette grande revue dont je sentais depuis longtemps le besoin. Je ne négligeais rien de ce qui dépendait de moi pour bien exécuter cette entreprise. Formule bien connue, mais lisons la suite. C'est de cette époque que je puis dater mon entier renoncement au monde. Impuissance, abstention, renoncement. La quatrième promenade, que les littéraires et les philosophes connaissent bien, puisque c'est celle sur le mensonge, évoque la fiction comme un mixte du savoir et de l'ignorance qui suspend, c'est Rousseau qui le dit, l'adhésion au vrai. La cinquième promenade, une des préférées des lecteurs, qui se présente comme une apologie du Farniente à l'île Saint-Pierre, est un plaidoyer pour l'abstention, je le cite, « Le précieux Farniente fut la première et la principale de ses jouissances, que je voulus savourer dans toute sa douceur, et tout ce que je fis durant mon séjour ne fut que l'occupation délicieuse et nécessaire d'un homme qui s'est dévoué à l'oisiveté. » L'impuissance, ça se travaille. C'est le Farniente, c'est une espèce de travail, si vous voulez bien. La sixième portera sur la suspension des bienfaits. C'est une apologie de l'abstention, pour ne pas faire le mal. Il ne faut pas tenter de faire le bien. Je ne le fais point, quoi qu'il arrive. Je ne fais pas non plus ma volonté, parce que je suis faible. Je m'abstiens d'agir, car toute ma faiblesse est pour l'action. Formule magnifique. Toute ma faiblesse est pour l'action. Toute ma force est négative, et tous mes péchés sont d'omission, rarement de commission. La très célèbre septième promenade porte sur l'herborisation, comme suspension de l'action et désœuvrement du corps, mais aussi comme refus de l'usage de la nature. Donc c'est une des promenades, vous le savez, qui a servi à dessiner le portrait paradoxal d'un Rousseau écologiste, fuyant les hommes, cherchant la solitude, n'imaginant plus, pensant encore moins, et cependant doué d'un tempérament vif qui m'éloigne de l'apathie languissante et mélancolique, je commençais de m'occuper de tout ce qui m'entourait, et par un instinct fort naturel, je donnais la préférence aux objets les plus agréables, c'est-à-dire les plantes. La huitième promenade est sans doute la plus éclairante, puisqu'elle porte sur la suspension des rapports à autrui. Je cite, « C'est ce que je m'efforçais de tenir encore à mille choses, et que toutes ces prises m'ayant successivement échappé, Réduit à moi seul, j'ai repris enfin mon assiette. Je ne m'attache plus à rien. Je ne m'appuie que sur moi. La neuvième, celle des oublis, met en scène la bienveillance secrète au profit de la bienveillance cachée. C'est un nouveau matérialisme du sage qui se met ici en place. Donner plutôt qu'échanger, suspendre la logique de l'échange. Quant à la dixième, la dernière, elle évoque, à la faveur du souvenir, la désactivation du temps et l'occasion qui fit se développer les facultés du jeune homme. Le mois des rêveries, donc, est un mois déposé, non plus posé. C'est un mois de la puissance de l'impuissance, et vous le mesurerez bien en soumettant les 10 promenades au fil des 3 questions par lesquelles Kant résumait dans sa logique, 1804, une œuvre tardive, les principaux enseignements de sa philosophie. Que puis-je savoir, que dois-je faire, que m'est-il permis d'espérer ? Ces questions, auxquelles l'Émile donnait des réponses en termes de puissance, trouvent chacune dans les rêveries des réponses en termes d'impuissance. La vieillesse ne libère aucun savoir, Rousseau confiant Platon et dément Cicéron. Ce que je dois faire, c'est ne rien faire, morale de l'abstention et de l'abstinence. Et surtout, je dois renoncer à espérer. Formule terrible de la première promenade, hein, dans cet état, affranchi de toute nouvelle crainte et délivré de l'inquiétude de l'espérance. L'inquiétude de l'espérance. La seule habitude suffira pour me rendre de jour en jour plus supportable une situation que rien ne peut empirer. Renoncer. Peut-être que le mot est trop fort. Il vaudrait mieux évoquer le rêveur comme un qui aurait renoncé à renoncer même. Impuissance donc, mais pas comme contraire de la puissance, ni même comme puissance de ne pas. Impuissance comme abstention, suspension, résignation. Les figures pratiques de la puissance de l'impuissant correspondent à autant de visages de la faiblesse et des forces de la faiblesse. C'est peut-être dans la ressource de cette privation de ressources que pourrait se dessiner la figure d'un nouveau sujet politique. C'est la thèse de Jean-François Perrin. Gageons, c'est une évidence, qu'un tel sujet a peu à voir avec le sujet brandi aujourd'hui de l'entreprise de soi et du développement personnel. Cette dernière philosophie implique évidemment une poétique particulière, car si la rêverie est une disposition du corps et de l'esprit, si elle est une image de la pensée qui indique le lieu le plus haut du détachement de la pensée à son objet, et Rousseau montre bien d'ailleurs combien la rêverie, hein, ce n'est pas la réflexion, ce n'est pas la contemplation, ce n'est pas la méditation, elle est aussi, et ça fait évidemment, ça contribue évidemment au charme extrême de ce livre, hein, elle est aussi un régime de phrases. Rousseau s'est bien expliqué sur la manière dont il a écrit les rêveries comme une espèce de désactivation de la méditation. Quoique mes rêveries, quelquefois, dit-il, par exemple, mes rêveries finissent par la méditation, mais le plus souvent, mes méditations finissent par la rêverie. Et durant ces égarements, mon âme erre et plane dans l'univers, sur les ailes de l'imagination, dans des extases qui passent toute autre jouissance. Tant que je goûtais celle-là dans toute sa pureté, toute autre occupation me fut toujours insipide. Il eût été possible de déployer cette réflexion dans la direction d'une poétique de la rêverie. L'affaire est connue, la rêverie n'était pas un genre avant Rousseau, ce baromètre de l'âme qui mêle le souvenir et la réflexion philosophique désactive, pour ainsi dire, la division générique et appelle une poétique singulière évoquée par Rousseau dans la première rêverie. Une situation si singulière mérite assurément d'être examinée et décrite, et c'est à cet examen, que je consacre mes derniers loisirs. Pour le faire avec succès, il faudrait procéder avec ordre et méthode, donc le lexique cartésien est toujours là, mais je suis incapable de ce travail, et même il m'écarterait de mon but, qui est de me rendre compte des modifications de mon âme et de leur succession. Je ferai sur moi-même, à quelque égard, les opérations que font les physiciens sur l'air pour en connaître l'état journalier. J'appliquerai le baromètre à mon âme, hein, c'était le titre d'un livre de Paché, hein, ça fait référence à, à l'exposé de Jean-Pierre Martin, encore un texte de Pagé qui s'appelait « Le baromètre de l'âme ». Et ces opérations bien dirigées et longtemps répétées me pourraient fournir des résultats aussi sûrs que les leurs. Mais même cela, il renonce. Je n'étends pas jusque-là mon entreprise, je me contenterai de tenir le registre des opérations sans chercher à les réduire en système. Je fais la même entreprise que Montaigne, mais avec un but tout contraire au sien, car il n'écrivait ses essais que pour les autres. Vous avez reconnu une pique, évidemment. Mais, dit Rousseau, hein, je n'écris mes rêveries que pour moi. Et si dans mes plus vieux jours, aux approches du départ, je reste, comme je l'espère, dans la même disposition où je suis, leur lecture me rappellera la douceur que je goûte à les écrire, et faisant renaître ainsi pour moi le temps passé, doublera, pour ainsi dire, mon existence. Une telle poétique appelle une syntaxe particulière dont Robert Osmond jadis et plus récemment Anne-Marie Garagnon ont su montrer la nouveauté. Je voudrais donc, pour finir, je voudrais juste revenir sur un lieu de la deuxième promenade que vous connaissez, ce n'est pas du tout un lieu inédit, mais qui montrera, je crois, la manière dont Rousseau conçoit cette poétique de l'impuissance. La nuit s'avançait, j'aperçus le ciel, quelques étoiles et un peu de verdure. Cette première sensation fut un moment délicieux. Je ne me sentais encore que par là. L'accident de Ménilmontant est si célèbre qu'il a fait l'objet d'un volume. Le narrateur de la deuxième promenade s'emploie à décrire un état où le sujet manque à soi-même, où le sujet se fait, pour ainsi dire, défaut et présent sans l'être. L'orientation affective de cette scène surprend. Loin que cet accident soit décrit comme un traumatisme, le promeneur en fait un moment délicieux. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est qu'un sujet décrit un rapport à soi si singulier qu'il faut le dire comme détaché de soi. Le rêveur le dit, c'est une naissance. La division du moi, impliquée ici, engage des décalages sans recollection, des états, on pourrait le prouver à partir de Foucault, de désubjectivation. Quelque chose comme une modalité de l'absence à soi. Je n'avais, dit Rousseau, nulle notion distincte de mon individu, pas la moindre idée de ce qui venait de m'arriver. Je ne savais ni qui j'étais, ni où j'étais. Une formule absolument formidable. D'autre part, ce rapport à soi implique une expérience singulière du temps. Rousseau, pour citer Char ici, semble habiter au cœur de l'éternel. Je naissais dans cet instant à la vie. Tout entier au moment présent, je ne me souvenais de rien. Rousseau emploie ici l'adjectif ravissant, dont le substantif, ravissement, est associé par trois fois au terme extase dans les rêveries. Mais il y a plus. Si Rousseau indique ici l'impossibilité d'une synthèse temporelle, qui permettrait la recollection du moi par la conscience de l'identité dans le temps, l'impossibilité de faire corps avec soi, s'il est vrai que la formule « faire corps avec soi-même » peut donner une idée vague de ce qui se passe ici, semble indiquer une spatialité propre, la spatialité des promenades. Je n'indique pas ici simplement l'expérience de l'espace éprouvée par notre narrateur, mais, et c'est une affaire de style ici, la formulation langagière de ce rapport. Je ne me sentais encore que par là. La référence grammaticale de ce par là, soulignée par la construction restrictive, est difficile à préciser. Par où Rousseau se sent-il quand il dit « je ne me sentais que par là » La phrase précédente a évoqué la première sensation dont le contenu a été donné précédemment. J'aperçus le ciel, quelques étoiles et un peu de verdure. Le décor est vaste, le ciel, la verdure, et indéfini, quelque, un peu. Nous n'avons pas affaire à des objets situables, et l'on ne saurait évoquer quelque chose comme une conscience thétique, pour parler comme les phénoménologues, une conscience de quelque chose. Faut-il comprendre que le promeneur ne se sent que par la sensation ou par l'objet vague de cette sensation ? Ce dormeur d'un val urbain, avec le ciel étoilé au-dessus de lui, se sent uniquement par le décor qui l'entoure et qui l'enveloppe. Pour reprendre une formule de la septième promenade, Il s'est fondu, hein, c'est Rousseau qui parle, dans le système des êtres. Il n'a nulle notion distincte de son moi. Il est hors de lui, sinon que la formule en français semble indiquer l'exaltation ou la colère, plutôt que le calme suspendu d'extase ravissante. Se sentir hors de soi, passer dans le décor, c'est inventer, me semble-t-il, un nouveau rapport à soi, c'est-à-dire l'expérience d'un sujet sans sujet de l'expérience. C'est cela, me semble-t-il, l'invention majeure du style des rêveries. Je conclus donc. Dans un texte célèbre, Le programme de la philosophie qui vient, Benjamin appelait à rénover le kantisme. Il soulignait une ambiguïté du kantisme. Il disait « Le problème de la philosophie critique kantienne, hein, c'est que sa conception de l'expérience est une conception purement scientifique qu'il aurait dû, c'est Benjamin qui parle, élargir à d'autres états de conscience, la faiblesse, la maladie. » Étendre les prérogatives de la philosophie critique kantienne à une conception de l'expérience qui pourrait assumer leur épuisement, leur désœuvrement, le brouillage des facultés, les avanies du vieillissement, c'est le programme de Benjamin. Cette conception, j'espère vous l'avoir indiquée, est celle sur laquelle nous engage une lecture de la dernière philosophie de Rousseau, telle qu'elle invente un style inouï dans les rêveries du promeneur solitaire. Pour l'entendre, il faut accepter contre Kant que l'histoire de la philosophie est bien celle des philosophes. Je vous remercie.